Bonsoir à tous. Nous sommes très très heureux d'avoir ce soir pour inviter du cycle Écrire, écrire pourquoi, un écrivain ukrainien de langue russe, Andrei Kourkov. Nous le remercions particulièrement d'avoir accepté notre invitation à venir nous entretenir de son parcours d'écriture en compagnie d'Oriane Jeancourt. Oriane Jeancourt, qui est journaliste littéraire au magazine Transfuge. Je vais lui laisser tout de suite la parole en vous souhaitant une très belle soirée.
Oui, bonsoir à tous. Je vais vous présenter en quelques mots Andrei Kourkov pour ceux qui n'ont pas encore la chance de le connaître. Alors, Andrei Kourkov est donc un écrivain ukrainien qui écrit en langue russe, ce qui est original en même temps pas tant que ça, puisque Gogol déjà était un ukrainien qui écrivait en langue russe. Et vous êtes certainement l'écrivain ukrainien le plus connu dans le monde, puisque vous avez été extrêmement traduit. Vous êtes né dans les années 60 à Saint-Pétersbourg, puis vous êtes allé à Kiev, où vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez écrit de nombreux romans, et notamment Le Pingouin, qui est votre best-seller, si j'ose dire, votre grand succès. C'est toujours dans une veine caustique, burlesque, grotesque. On parle d'humour noir, d'ironie. Le Pingouin, par exemple, l'histoire d'un écrivain raté qui se reconvertit dans l'écriture de nécrologie et qui, malgré lui, fait mourir les gens dont il écrit les nécrologies. Alors, vous êtes donc un maître de l'absurde dans la veine de Kafka, Bulgakov ou, je l'ai dit, Gogol. Alors, dans quelle mesure vous incarnez une des âmes russes contemporaines? Quel rôle joue l'écrivain comique dans une tragédie politique que frôle parfois votre pays, l'Ukraine, et puis plus largement les pays d'ex-URSS? On se posera toutes ces questions, mais d'abord, on est dans un cycle qui s'appelle « Écrire, écrire, pourquoi ?». Alors, pourquoi est-ce que vous avez commencé à écrire?
En fait, j'avais 6 ans quand j'ai commencé à écrire les poèmes. Et c'était à cause du destin tragique de mes hamsters. Parce qu'on s'installait après, la famille s'était déménagée de Pétersbourg. On a reçu un petit appartement en 2 pièces sur le 5e étage, en face de l'usine Antonov, où on a produit les avions Antonov. Et mon père, d'abord, il était un pilote d'essai militaire près de Leningrad, et après, il était démissionné avec 1100 officiers soviétiques par Nikita Khrushchev, qui voulait montrer le monde que l'Union soviétique se désarme. Et il a trouvé le travail dans l'usine Antonov. Et là, chaque nuit, on a testé les turbines. Comme ça, on s'est habitué à dormir avec beaucoup de bruit. Et j'avais 6 ans, j'avais aussi un frère 7 ans plus âgé, mais très souvent, j'étais resté seul dans l'appartement. Et mon père m'a acheté 3 hamsters. Et je jouais avec les hamsters quand je restais seul. Et une fois, mon père, par hasard, a tué un hamster par la porte. Quelques temps après, l'autre hamster était mangé par le chat que j'ai apporté de la rue pour nourrir, pour lui donner saucisson. Et quand le dernier hamster était encore vivant, j'écrivais un poème sur la solitude d'un hamster qui perdu ses amis. Et ma mère adorait ce poème. Je devais déclamer le poème quelques fois pour les amis des parents. Et quelques semaines après, le dernier hamster était tombé des balcons du 5e étage. Et j'ai commencé à écrire. mais en fait, les animaux n'étaient jamais heureux chez moi. Et comme ça, peut-être à cause de ça, il y a 13 romans avec des animaux que j'écrivais. Et seulement 2 romans sans animaux.
Et c'est vrai que même le dernier, L'étier de nuit, vous faites mourir. En tout cas, vous abîmez beaucoup un pauvre chat qui n'a rien fait pour ça.
Pas très pauvre. Mais c'est le chat éternel, on peut dire.
Alors, vous avez grandi dans une famille qui était, c'est vrai, proche du pouvoir soviétique.
Proche d'idéologie soviétique, peut-être, parce que mon père était communiste. Ma grand-mère, après la guerre, s'installait à Kiev, à Pushchevodice. C'est presque banlieue, un courant où il y en a des sanatoriums, des camps de pionniers, des choses comme ça. Et elle était une stalinienne vraie. Pendant la guerre, elle était la chirurgienne sur le train près de front. Et elle était une femme très, très forte. Comme le résultat, mon père était devenu un peu faible, je crois. Mais une autre chose, mon grand-père, le mari de ma grand-mère, il était divorcé quand, avant que j'étais né. Il était aussi un staliniste. Il est entouré sur l'allée, on peut dire, allée des gloires à Rostov-on-Don, parce que la famille de côté de mon père vient des Cosaques de Don. Mais en fait, moi, mon frère était devenu un dissident, en fait. Et grâce à lui, j'ai lu beaucoup de livres, de manuscrits interdits.
Comme lesquels?
Le premier livre de deux livres de Solzhenitsyn, c'était l'archipelag Goulag et Un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch. Mais on a apporté beaucoup de livres qui n'étaient pas anti-soviétiques, mais aussi interdits, comme Anna Akhmatova, les collections des poèmes d'Akhmatova, Mandelstam, Pasternak, Konstantin Vaginov, Igor Severianin. À part de ça, aussi beaucoup de livres sur psychoanalyse, Sigmund Freud, Carl Jung, Schopenhauer. Livre sur la philosophie, Søren Kierkegaard, Emmanuel Swedenborg, les choses mystiques, et je crois cette salade que j'ai lue, et peut-être que je n'ai pas compris tout, aussi m'a influencé vraiment.
Et dans la veine de l'absurde, comment vous avez découvert cette littérature-là?
Oh oui, c'était aussi grâce à mon père, parce que frère, il a apporté les manuscrits avec des récits de Daniel Charm. Et je crois que Daniel Charm était le père de la littérature absurde soviétique et russe. Mmh. Et j'adorais parce que ces récits étaient comme blagues. C'était très court, très drôle, très cynique. Je sais qu'il y a des traductions. Mais j'adorais ces récits et je continue à écrire le même récit avec les personnages de Daniel Charm. Il a écrit des blagues noires sur Pushkin, par exemple, Gogol et Tolstoï, et je continue. Ça, il y avait quelques séries qu'il a écrites et j'écrivais plus que 300 blagues ou petits récits avec humour noir, après, dans le style de Daniel Charm. Mais après, j'ai découvert Andrei Platonov et remplacé Charm avec Platonov et commencé à écrire dans le style de Platonov. J'étais passionné par ses expériences avec la langue parce qu'il était un écrivain du groupe des écrivains prolétariats qui essayaient de prolétariser la langue russe. On a inventé beaucoup de mots, on a simplifié les mots plus compliqués, on a annulé les mots bourgeois, choses comme ça. J'écrivais trois romans qui ne sont pas traduits en utilisant un peu le style ou l'influence d'Andrei Platonov aussi. C'était les romans autour de l'histoire de l'évolution des mentalités soviétiques utopiques. Là, il y a aussi des animaux. Et le premier animal, c'était le rat, dans le roman Le Monde du Bigfoot. Et c'est un rat très patriotique, très soviétique et contre désarmement.
Et les écrivains officiels du réalisme socialiste, Gorky par exemple, ça,
j'adorais Gorky, oui. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui la collection de récits Strasti Mardasti. C'est le réalisme noir pour moi, Gorky. Mais Simon, tout qu'il a écrit, peut-être jusqu'à 27, 28. Je n'aimais pas La mer, le roman, bien sûr, mais Дело Артамоновых, l'affaire d'Artamonov, les récits italiens, tout ça, j'aimais. Mais aussi, j'avais 15 ans, 16 ans, quand j'ai décidé que pour un écrivain ou un chanteur comme Chaliapin, c'est plus important d'être une personnalité exceptionnelle qu'avoir un talent très grand. Et j'étais charmé par Chalapin et Gorky à cause de ça aussi. Parce que dans l'âge de 22, 23 ans, j'ai rêvé de visiter l'île Capri. Et dans un de mes romans, j'ai Gorky dans deux de mes romans comme un personnage historique. Et dans un des romans, géographie des coups de feu seul, géographie одиночного выстрела, Максим Горки jouait l'échec avec Lénine à Capri. Mais alors, en fait, ce n'est pas clair. Il a eu ce jeu d'échec, mais c'est, personne ne sait qui a gagné.
Ah. Alors, vous avez écrit très tôt, mais vous avez dû attendre l'effondrement de l'URSS pour être publié. Donc, avant 91, qu'est-ce que vous avez exercé comme métier? Comment vous avez fait pour écrire en même temps? Je crois que vous avez travaillé dans une prison, par exemple.
Non, ce n'était pas le travail. D'abord, j'avais beaucoup de hobbies. Comme l'enfant, j'avais deux hobbies très importants pour moi. J'adorais les cactus. Et j'avais une collection de cactus, 1500 cactus différents. Et j'ai appris tous les noms des cactus en latin. Et le latin botanique était ma langue étrangère, première langue étrangère.
Et vous en parlez 9?
Oui, je parle. Il y a 25 ans, je parlais 11 et russe. Mais j'ai perdu les langues que je n'ai pas utilisées. Mais aussi, j'ai appris le piano à partir de l'âge de 5 ans. Et je pense que cette combination des cactus et du piano fait bien pour apprendre les langues étrangères.
Certainement.
Oui. Dans l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'apprendre anglais. Et dans ce moment, un ami de mon frère, qui était aussi dissident, il était retourné de l'exil à Kiev. Et il passait 11 ans en exil polaire. Et là, il a appris, pas appris les langues, mais il a mémorisé 11 dictionnaires d'11 langues différentes. Et il était d'accord d'enseigner l'anglais à moi. Mais bien sûr, il ne pouvait pas parler anglais. Il m'a montré comment on mémorise les mots dans le dictionnaire. Et mes parents ont payé 2 roubles pour une heure d'enseignement. Mais c'était très intéressant et je crois que c'était très, très bon pour ma mémoire. Parce que quand j'ai devenu déjà l'étudiant dans les langues l'Institut des langues étrangères, je parlais avec des étudiants anglais qui étaient envoyés pour pratiquer le russe. Et les Anglais étaient étonnés par mon vocabulaire. Ils m'ont demandé pourquoi je connais beaucoup des mots très, très étranges. Et je me posais les mêmes questions. J'étais rentré chez moi et j'ai regardé la date du dictionnaire que j'ai appris par mémoire, et c'était 1927. Mais j'ai appris japonais dans l'école des traducteurs, j'ai appris anglais et français dans l'Institut de langue étrangère, et je faisais des études par correspondance dans l'Institut des cultures à Moscou. Et après, je travaillais comme éditeur, j'ai édité les traductions littéraires de langues différentes en ukrainien. Et je travaillais comme dans une maison d'édition d'État Dnipro 6 mois. Et par accident, j'ai découvert que mon chef et deux de ses amis, qui étaient aussi tous les trois étaient les membres de l'Union des écrivains soviétiques, ils ont fait plagiat. Il m'a donné éditer une traduction d'hongrois d'un roman sur la guerre première mondiale d'Oberdo par l'écrivain communiste hongrois Matezalka. Et j'ai lu la traduction et j'étais un peu surpris. Il y avait des choses un peu drôle. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais des erreurs pas contemporaines. Et j'étais allé dans les archives de maison d'édition et j'ai trouvé le même roman qui était déjà imprimé ou publié en 1947 dans la même maison d'édition en ukrainien. Et c'était la traduction de la langue russe parce que Matezalka habitait dans l'Union soviétique les dernières années, je crois, et il a écrit en russe. Mmh. Oui, et le roman était traduit par un traducteur qui était après accusé d'espionnage et disparu dans le goulag. Et j'étais venu au mon chef avec cette édition, et je voulais simplement voir la réaction parce qu'il a eu la même erreur dans l'édition de 1947 et dans l'édition de trois traducteurs qui ne parlaient pas, ne comprenaient pas hongrois. Et après ça, après cette situation, on a commencé beaucoup des intrigues contre moi en disant que je suis un russe ethnique, né en Russie, je ne peux pas vraiment éditer les textes en ukrainien, les choses comme ça. Et avant ça, j'ai presque réussi d'évader le service militaire parce que j'étais un pacifiste. J'écrivais un roman pacifiste, la chanson préférée d'un cosmopolitain. Le roman d'abord était appelé anti-russe en Russie et après anti-ukrainien en Ukraine. Mais après ces intrigues, j'étais si fatigué que j'ai décidé peut-être que je dois joindre l'armée. Mais il y a un problème parce qu'à cause du diplôme de la langue japonaise, j'étais inscrit dans le groupe des KGB sur les îles Kuril près du Japon pour écouter les officiers japonais. Et je ne voulais faire ça parce que si tu fais le service militaire dans le groupe de KGB, tu ne peux pas quitter le pays pendant 25 ans, dans l'Union soviétique. Oui. Et je rêvais de voyager, bien sûr. Et ma mère travaillait comme une médecin dans l'hôpital de police qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est place Lukianovka à Kiev. Et j'ai demandé de trouver un patient, un général malade, mais amical, qui peut changer mes papiers dans le commissariat. Et elle l'a trouvé. Et ce général était allé au commissariat et remplacé sur mon dossier le code de KGB avec gendarmerie. Et dans l'âge de 24 ans, envoyé dans le point d'assemblage des soldats du futur, où j'étais approché tout de suite par un sous-officier qui était très amical, qui m'a montré tout de suite qu'il connaît que je vais faire le service militaire grâce aux connexions de ma mère. Il a dit que il y a trois prisons pour vous à choisir où vous pouvez faire le service militaire. La prison d'Odessa, la prison de Nikolaïev et Kherson. Et j'ai dit tout de suite Odessa. C'est près de Mer Noire, c'est une ville magnifique, romantique. Il y a beaucoup des écrivains, des peintres qui sont d'Odessa. Et j'étais envoyé à Odessa. Et après trois mois d'école des jeunes soldats, j'ai déjà commencé mon service dans la prison et mes officiers étaient un peu surpris parce que d'abord j'étais plus âgé qu'eux parce qu'ils étaient très jeunes, 22, 23 ans, j'avais 24 ans et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi un garçon avec trois diplômes était envoyé aux prisons où normalement c'est les Kirghiz, les Ouzbeks, les Azerbaïdjanais qui ne peuvent pas lire et parler russe sont envoyés. Mais j'expliquais qu'en fait je ne voulais pas vraiment devenir un gardien de la prison, mais j'espère qu'un jour je vais devenir un écrivain. Et un officier qui était zampolite, c'est l'officier responsable pour l'éducation politique des soldats. Il était ravi tout de suite. Il a dit, on a besoin d'un écrivain ici parce qu'on a des sessions, des rencontres du Parti communiste chaque semaine et quelqu'un doit écrire ses textes. Et comme ça, j'étais donné chaque soir les clés d'un bureau d'un major Vassiliouk. Et je travaillais à table avec une machine de tapis, Kalachnikov, la radio avec des bandes courtes pour écouter Voice of America et des journaux militaires. Et je faisais beaucoup de plagiat. J'ai pris les textes de journaux militaires, j'ai coupé tous les textes, j'ai mélangé comme les cartes. J'ai remplacé les noms des Kyrgyz et Ouzbek pas connus avec les noms des Kyrgyz et Ouzbek de notre prison. J'ai rétapé le texte et 2 heures après, le texte pour le rapport, pour la rencontre politique était prêt. Et jusqu'à maintenant, j'écrivais les histoires pour les enfants, les romans, les essais. Mais le matin, je disais, oui, je travaillais toute la nuit pour écrire votre texte. Est-ce que je peux aller dormir? Et Major Vassiliouk, Major, oui, c'est Major en français, Major.
Oui, mais oui, Major.
Oui, oui. Il a eu un humour soviétique très spécial. C'est comme les officiers d'armée soviétique. Il a dit... Bien, tu as 30 minutes, repose-toi très vite et très bien et reviens. Mais en fait, j'ai commencé à écrire pour les enfants dans la prison.
Oui.
Oui. Mais avant ça, j'avais beaucoup de boulot, de petits boulots. Mais en fait, le premier travail que je faisais, c'était le travail de désinfectionnaire.
Oui.
Oui, parce que la première étude après l'école était les cours pour la désinfection médicale. Ah. Oui. Je travaillais dans l'hôpital avec une machine pour désinfection des vêtements, des choses comme ça. Et tout le travail était vraiment poussé en... bouton vert à 10 heures du matin et pousser le bouton rouge à 18 heures. Et entre le deux, je pouvais écrire.
Oui, ça laissait le temps.
Oui.
Et alors, vous avez attendu quelques semaines avant la chute de l'Empire soviétique pour publier votre premier roman. Et comment s'est passée cette publication? C'était un peu chaotique.
Ouais, j'écrivais mon premier roman dans l'âge de 17 ans et j'ai commencé à agresser les éditeurs soviétiques. J'ai envoyé beaucoup des manuscrits, des synopsis, des résumés, mais aussi j'ai visité toutes les maisons d'édition à Kiev et à Moscou. Et j'aimais le moment de conversation, sociability, c'est comment les rencontres,
oui.
Les rencontres avec les gens de la littérature professionnelle. Mm. Et ils m'ont expliqué tout de suite que j'écris la littérature pas soviétique et c'est pas possible de publier, mais je continue. Et un jour, j'ai rencontré un Polonais qui travaillait comme ingénieur dans le chantier d'un hôtel à Kiev. On s'est devenu amis et il traversait chaque 2 semaines la frontière pour aller à Pologne et revenir. Et il a commencé de trafiquer mes manuscrits et mes lettres à Pologne et envoyer mes lettres aux maisons d'édition étrangères de Pologne. Et il a fait ça pendant 10 ans. En fait. Et en 87, après, j'ai revenu chez moi après la prison. Oui, j'ai approché encore une fois la maison d'édition, l'Union des écrivains ukrainiennes, et on m'a dit que pourquoi tu n'essayes pas d'écrire quelques récits réalistiques avec des héros positifs, sur la vie vraie, sans surréalisme, sans humour. Et j'ai décidé, oui, je veux devenir un écrivain professionnel. Mais en fait, je voulais devenir un écrivain professionnel parce que je pensais que les écrivains professionnels ne travaillent pas. Oui, c'est vrai, il était devenu le membre de l'Union des écrivains soviétiques. Et comme le membre, tu es déjà employé de l'Union des écrivains, tu peux rester chez toi. Si tu veux, tu peux écrire. Si tu ne veux pas écrire, tu peux boire. Si tu es le membre de l'Union soviétique, tu peux écrire une lettre officielle à la maison d'édition en disant que je vais écrire un roman sur Kolkhoz, le conflit entre le... je ne sais pas, un paysan méchant et deux communistes. Bon. À partir de ça, le membre de l'Union des écrivains est payé en avance pour ce roman et il peut écrire le roman, il peut écrire dans 2 ans, mais c'était vraiment pas très important. C'était la vie chic pour les membres des écrivains soviétiques, mais pour devenir le membre, c'était nécessaire d'avoir 2-3 livres publiés. Et pour publier un livre, c'était nécessaire d'être membre de l'Union des écrivains. Et comme ça, je pensais bien, j'ai essayé, j'écrirai un livre avec des récits réalistiques. Je deviens le membre de l'Union des écrivains et je commence à écrire ce que je veux. Oui, et j'écrivais quelques récits. J'étais venu à la maison d'édition de Komsomol Molodj à Kiev. J'ai rencontré le chef du département. Il a lu le récit. Il a dit, bien, on va faire ce livre. On va planifier le livre pour 89. Et c'était 87. Il m'a présenté une jeune femme qui devait... éditer et corriger et travailler avec moi comme auteur. Et on a commencé le travail. J'étais venu la première fois dans la maison d'édition, dans le bureau de cette femme. Il a dit, bien, on va faire ce livre et tout de suite, on va travailler sur le deuxième dans l'autre maison d'édition, Rydianski Pismennik, l'écrivain soviétique. Et en fait, cette femme était de Kherson, en fait, du sud d'Ukraine. Elle n'était pas de Kiev. Il a dit, je suis dans le queue pour recevoir l'appartement, mais ça sera le studio. Mais si on s'est marié, je vais recevoir un appartement à 2 pièces et j'organise que tu aies un livre par an. Et j'étais un peu choqué, je disais je dois penser de ça parce que c'est déjà trop de compromis. Et je disais non. Et comme le résultat, la maison d'édition a changé l'opinion et a décidé pas de publier mon livre. Mais en tout cas, j'écrivais mes textes plus naturels pour moi, avec surréalisme, sur les choses un peu plus... moins soviétique, et c'était déjà presque la fin de l'ère de Gorbatchev, et j'ai apporté trois romans courts aux maisons d'édition l'écrivain soviétique, et là, comme éditeur, c'était un écrivain ukrainien qui travaillait, Valentin Tarnavsky. Il m'a décidé d'aider. En fait, il a fait tout pour le livre pourrait sortir. Et le livre a été publié quelques semaines ou 2-3 mois avant le chute de l'Union soviétique. Et c'était le dernier livre dans la langue russe, dans cette maison d'édition qui s'appelle maintenant L'écrivain ukrainien.
Et qui ne publie plus qu'en ukrainien.
Oui.
Alors, c'est vrai que la plupart de vos romans traduits en français décrivent la société ukrainienne post, euh, post-soviétique. Et alors cette société anarchique, dominée par la corruption, le chaos, vous fait visiblement extrêmement rire. Alors pourquoi vous fait-elle autant rire ?
Est-ce que je peux vous corriger ?
Oui.
Oui, c'est une corruption dominée par anarchie. Non, j'adore l'Ukraine. En fait, l'Ukraine était toujours la patrie d'anarchie. Makhno, Холодный Яр, Петлюра, tous les grands hommes d'anarchie viennent d'Ukraine. Et je ne sais pas, j'ai peur qu'un jour, le pays devienne beaucoup plus civilisé. Mais comme optimiste noir, je crois que ça ne sera pas pendant ma vie. Et comme ça, j'aurai beaucoup de matériel pour mes romans. Mais je décris, en fait, j'ai écrit trois romans sur l'évolution des mentalités soviétiques utopiques. Et c'est les romans presque historiques, parce que là, j'ai utilisé beaucoup de faits historiques pas connus et beaucoup de faits inventés par moi. Et après, je pensais qu'il faut maintenant écrire sur la situation aujourd'hui. Sur les sites. Ouais, en fait, la situation a changé beaucoup de fois en Ukraine. Et le moment quand j'ai créé l'ami du défunt ou le pique-nique, le pingouin, c'était la situation comme à Chicago dans les années 30. Maintenant, c'est beaucoup plus civilisé, c'est comme Italie ou Grèce. Oui, mais je me souviens quand j'ai lu quelques romans russes post-soviétiques. J'étais choqué par le fait que les écrivains russes post-soviétiques qui écrivaient les romans noirs, ils détestaient la Russie post-soviétique, ils détestaient les personnages, ils détestaient toutes les choses qu'ils décrivaient. Et je pensais que c'est pas correct. C'est pas correct. Si tu écris sur quelque chose, tu dois aimer aussi les personnages négatifs. Aussi, si le pays n'est pas normal, on peut trouver la raison. Aimer le pays. Parce que c'est l'amour qui change le pays, les personnages, c'est pas le hôte. Oui. Mmh. Oui. Et j'ai décidé de. Je voulais aussi, bien sûr, dans le début des 90, décrire ces situations tragiques qui s'est passées là, à Kiev, partout. Mais je ne voulais pas écrire un roman noir sans espoir pour montrer que tout est tragique, que tout est mal. Et je crois que grâce à la connaissance de Daniel Charme, d'André Platonov, j'ai décidé de vraiment utiliser humour noir et utiliser un peu de surréalisme pour faire la réalité plus mangeable.
Mais c'est vrai que jusqu'à ce dernier roman, L'étier de nuit, vos personnages sont surtout dominés par le plus grand fatalisme. Quoi qu'il leur arrive, les personnages centraux, même dans les situations les plus absurdes, à la frontière du tragique, acceptent avec fatalisme. Est-ce que c'est ça, finalement ?
Oui, c'est ça, mais c'est fini. Dans mes derniers romans, il n'y a pas déjà beaucoup de fatalisme, parce que dans le début des années 90, la vie était beaucoup plus active que la vie seule, le monde, le pays, la situation, que les gens. Et comme ça, tous les gens étaient dominés par les conséquences des chutes de l'Union soviétique, par les situations criminelles, par... comprenez qu'ils peuvent changer rien, ils peuvent se cacher et attendre le mieux temps. Et c'était normal pour beaucoup des intellectuels, après le chute de l'Union soviétique, de se cacher et attendre. Et les gens qui essayaient de faire quelque chose, de commencer d'affaires, je connais beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens étaient tués par la mafia, par le racket, mais beaucoup de gens ont survécu, étaient devenus les hommes des affaires, on peut dire, légales. Il y a eu beaucoup de gens qui rejoignaient le mafia, parce qu'on a eu des annonces partout en Kiev. On cherche 200 jeunes hommes physiquement forts pour travailler dans une firme, warehouse, pour porter
Entrepôt.
Ah oui, un dépôt. Et c'était les annonces des nouveaux groupes de mafias qui cherchaient les soldats. Et on a eu beaucoup de gens qui étaient là, étaient tués aussi là, dans la guerre entre la mafia et les gens normaux. Mais cette phase est déjà dans le passé. Et à partir de 87, 88, 89... la majorité des gens étaient devenus plus actifs que la vie ou que les circonstances. Et le fatalisme est fini. Le fatalisme, maintenant, c'est plutôt la littérature russe classique.
Ouais. Alors, vos personnages les plus drôles restent les hommes politiques, du début jusqu'à la fin. Même dans l'étier de nuit, le député est toujours un croisement du grotesque et d'un cynisme absolu. Et on pense beaucoup à Bulgakov aussi, qui avait fait de son chat enragé un double de Molotov. Alors, pourquoi vous aimez autant caricaturer à ce point-là les hommes politiques ?
C'est la chose plus simple, parce qu'ils sont des caricatures. Mais en fait, les hommes politiques post-soviétiques, c'est les personnages vraiment... pas kafkaïen, c'est le personnage de Gogol. Oui, je connais beaucoup de politiciens. Pour moi, il avait toujours quelques questions à poser aux politiciens. Pourquoi ils vont dans la politique et après ils restent très pas contents, ils déprimés, spécialement le président. Tous les présidents, le nouveau aussi, va devenir très déprimé, je suis sûr. C'est une carrière sans objectif, parce que on devient le président comme M. Yushchenko. J'ai soutenu Yushchenko, j'ai participé dans la Révolution orange. J'ai passé 3 semaines magnifiques sur la place d'Indépendance, en discutant, en buvant le cognac, quelque chose comme ça, pour se réchauffer, parce que c'était froid. Mais après, il était devenu le président. Il a arrêté toutes les activités et il a commencé à faire choses drôles. Il s'est plongé dans l'histoire, et dans le mythe ukrainien, le mythe russe. Et on peut dire qu'il a fini comme un homme, un politicien ukrainien déprimé typique. Oui. Mais dans le roman Le dernier amour du président, en fait, j'écrivais le roman pour trouver la réponse sur cette question. Oui. Et j'ai compris, parce que c'est toujours les hommes qui ne sont pas aimés par les femmes qui vont dans la politique. Ils veulent être aimés par le peuple. Mais le peuple ukrainien est très conservatif et il n'accepte pas les hommes qui ne sont pas aimés par les femmes.
Il faut dire, dans Le dernier amour du président, qui est paru en 2005 en plus en France, vous avez été visionnaire, puisque vous racontez l'histoire d'un président qui est empoisonné et qui se retrouve même un peu dévisagé.
Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a conflit des gaz.
Et il y a le conflit
une
de
année
gaz,
en avance.
Mais comment vous faites, vous avez lu dans l'avenir de l'Ukraine ?
Non, je crois que chaque absurde a une certaine logique. Et quand on habite dans le pays avec beaucoup d'absurdes, on commence à comprendre comment l'absurde fonctionne. Et comme ça, on peut prévoir beaucoup de choses. Avec ce roman, j'avais beaucoup de problèmes après, parce que le roman était sorti en mars 2004. La Révolution orange s'est passée en octobre-novembre. Après, c'était un nouveau président. Et le janvier 2005, j'étais invité par 2 généraux du service secret ukrainien, des SBU, au restaurant Belgique pour boire du cognac et du café et pour une conversation amicale. Et on m'a posé des questions. Est-ce que mon roman pourrait être un scénario pour empoisonnement? Et je disais que ce n'était pas possible parce que les gens qui empoisent les autres professionnellement ne lisent pas les romans, ils lisent la littérature professionnelle. Et une autre chose, les empoisonnements en fait commencé en 88 à Moscou avec la mort d'un banquier d'origine grecque, Dimitriadi. Après, c'était Yuri Chikochikhin, Anna Politkovskaya, les hommes des affaires différents, choses comme ça. Ce n'était pas nouveauté. Mm. Oui. Mais après, il y a aussi un personnage dans le roman qui s'appelle Vladimir Poutine. Il est un président russe dans le roman jusqu'en 2016 avec une pause de 4 ans. Peut-être à cause de ça, mes livres ont été enlevés de toutes les librairies russes. La maison d'édition de Moscou a arrêté la distribution et imprimerie de mes livres. Et j'étais devenu comme Madame Barmiatova, qui est une figure très importante de la littérature russe post-soviétique. Elle a dit que Kourkov, c'est un nationaliste ukrainien de la langue russe. Oui, je passais ce message au nationaliste ukrainien et il était ravi. Parce qu'il luttait pendant 10 ans en essayant à me pousser que j'écris en ukrainien. Je parle ukrainien sans accent. Oui, mais je disais, oui, mais ma langue maternelle, c'est russe. Et l'écrivain doit rester, je crois, s'il n'est pas bilingue après naissance, comme mes enfants, par exemple, parce que ma femme est anglaise. Oui, il doit rester avec la langue maternelle, je crois. J'écris les textes pour les journaux en ukrainien, en anglais, en allemand, en russe, mais la prose reste écrite en russe.
Mais on voit à quel point ça vous a toujours posé des problèmes. C'est même un des principaux sujets du Caméléon, cette double identité, c'est-à-dire entre la Russie et l'Ukraine.
Pour moi, c'est pas un problème. En fait, il y a 8 millions des Russes ethniques en Ukraine. Il y a officiellement 14 millions de russophones, je crois. Il y en a plus. Mais il n'y a pas de problème entre les gens. C'est la cause, la raison du conflit, c'est parce que l'Ukraine, c'est un pays où on peut dire c'est aussi dans les parties pas anarchiques. Il y a toujours une anarchie. C'est un pays sans idéologie. Et il y a 174 partis politiques enregistrés dans le ministère de justice. Oui. Et la seule partie avec une idéologie, c'est le parti Svoboda, c'est les nationalistes radicaux, Oleg Ternibok, qui a promoté une idée de... comment on dit, emplacer. To move away.
Rejeter
les Juifs et les Russes d'Ukraine et tout sera bien. Et toutes les autres parties, c'est les corporations avec intérêts financiers communs. Et les deux parties les plus grandes, c'est le parti de Timoshenko et le parti de Yanukovych, ils sont proches. C'est seulement il y a des oligarques qui soutiennent Yanukovych, il y a des oligarques qui soutiennent Timoshenko et pensent que c'est possible qu'elle devienne le président. Mais en fait, le choix pendant les élections dernières, c'était comme choisir entre voiture sans frein et frein sans voiture. Et comme Ukraine est un pays très calme et ne se dépêche jamais, on a choisi le frein.
on voit en vous écoutant à quel point vous êtes toujours politique. C'est-à-dire que vous ne concevez pas la littérature en dehors d'un geste politique.
Non, non, j'ai essayé d'écrire Le laitier comme un roman sans politique, comme une histoire d'amour. Comme résultat, j'ai 3 histoires d'amour et un membre du Parlement. Mais au moment, j'écris un roman vraiment sans politique. J'ai réussi.
Et quel regard vous jetez sur la littérature contemporaine ukrainienne qui vous entoure, qui, elle, est plutôt nihiliste et indifférente à la politique?
Oui, c'est normal parce que nous avons une génération excellente, très jeune, très féminine. Il y a 25-26 jeunes femmes, très jeunes, qui écrivent les romans sur sexe, drugs and rock and roll. Et il y a encore 2-3 jeunes hommes qui font la même chose. Ils sont cyniques, on peut dire. Ils n'écrivent pas sur les issues sociales ou politiques, mais c'est normal parce que ils n'ont pas respect pour les politiciens d'aujourd'hui. On va avoir une autre génération politique, on va avoir aussi une génération des auteurs politisés. Je suis presque seul auteur qui écrit des romans un peu politiques. Oui. Les autres de ma génération, c'est Yuri Andruhovitch, c'est le meilleur peut-être écrivain ukrainophone. Comme encore quelques écrivains de l'ouest du pays, ils sont influencés par l'histoire plus que par la réalité. Et c'est lui, Taras Prochasko, et il y a des autres qui sont nostalgiques par rapport au temps de l'Autriche-Hongrie, l'Empire autriche-Hongrie.
Oui.
Oui.
Et est-ce que le rire, pour vous, peut éveiller une conscience politique? Par exemple, dans L'été de nuit, vous décrivez le peuple rural ukrainien. Et est-ce que vous tentez aussi d'éveiller un peu le peuple ukrainien à une conscience politique par le rire?
D'éveiller, c'est changer.
Oui, c'est de les faire se rendre compte.
Mais les gens des villages sont aussi politisés, mais un peu différents. Parce que chez nous, on a une chaîne de télé du Parlement. On peut regarder toutes les sessions du Parlement. Et il y a un million de gens, des vieux, qui regardent ces chaînes. Comme fait-on? Ils connaissent tous les noms du Parlement, de ses femmes, de ses amantes. Ils cherchent l'information sur les scandales dans les familles des députés, des choses comme ça. Et c'est déjà c'est un cirque, mais ça fait la vie, on peut dire, en Ukraine, beaucoup plus gaie qu'en Russie.
Ah oui, c'est plus gaie.
Bien sûr.
Et est-ce que vous vous voyez aussi un peu comme un moraliste?
Moraliste? Oh, j'ai peur maintenant du mot moral. J'étais le membre de la commission d'État sur la moralité, sur la défense de la moralité publique. Je m'ai démissionné.
Ah oui, vous avez démissionné?
Oui.
Pourquoi?
Oui, parce que j'ai arrêté à comprendre qu'est-ce que c'est la moralité publique après les sessions de commission.
Donc vous ne recherchez pas la morale dans vos romans?
Il y a de morale, il faut aimer les gens, il faut aimer ton pays, il faut essayer de changer ça par moyen d'écriture, par moyen des activités politiques, par moyen par être apolitisé, par tous les moyens possibles.
Un peu comme à une autre époque, Solzhenitsyn se voyait moraliste, ou en tout cas une conscience politique. Est-ce que vous verriez comme ça dans un autre genre?
Non, ce n'est pas une comparaison bonne.
Non.
J'écrivais une nécrologe sur Solzhenitsyn.
Ah oui?
Pour le. Journal. Journal en russe. C'est le hebdomadaire New Statesman à Londres. Et ce n'était pas une nécrologe très positive.
Vous n'êtes pas le premier à le regretter?
Non.
Non. Souvent, vous dites que vous êtes un optimiste noir, donc ça vous protège du cynisme, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que cet optimisme noir?
Oui, c'est l'espoir que tout sera bien, mais c'est aussi être sûr que tu ne seras pas vivant dans ce moment, quand tout devient bien.
On va peut-être lire un extrait du Pingouin.
Oui.
Vous l'avez en russe, moi je l'ai en français.
Je dois dire que la traductrice du roman du Pingouin est ici, c'est Nathalie Amergier, qui a reçu le prix pour la meilleure traduction pour ce roman.
Et c'est vrai que c'est une très belle traduction,
oui.
C'est vrai.
Oui.
Qui va commencer? Qui commence peut-être en français pour commencer?
D'accord.
Non. Donc, ce qui est très beau dans Le Pingouin, c'est qu'il y a plusieurs nécrologies. Donc, puisque je l'ai dit, Victor Zolotareff, le personnage principal, est un auteur de nécrologie. Et c'est là où, véritablement, il se révèle le plus poétique, jusqu'à la dernière, qui est évidemment la sienne propre. Voilà. Donc, je vais vous lire un extrait de sa propre nécrologie. On pourrait sans hésiter le qualifier d'écrivain raté s'il s'était limité à pratiquer la littérature ou le journalisme. Mais en dépit d'un manque flagrant de talent littéraire, il débordait d'un autre genre de talent qui consistait à élaborer des scénarios. Il n'a pas suivi la voie des ratés de l'ancienne école qui se sont reconvertis dans la politique feutrée et sommeillent aujourd'hui en toute quiétude sur les bancs de l'Assemblée. Non, il a manifesté un véritable intérêt pour la politique, mais en exerçant de manière inattendue le talent évoqué plus haut. Sa vie privée était elle aussi plus proche de la fiction que de la réalité. Le seul être auquel il vouait un attachement sincère était un pingouin. Il l'aimait à telle enseigne que lorsque cet animal tomba gravement malade, il lui fit transplanter le cœur d'un enfant qu'il était allé acheter aux parents d'un petit garçon mortellement blessé dans un accident de voiture, sans se préoccuper le moins du monde de l'aspect moral de sa démarche. Victor Zolotareff n'a apporté aucune contribution à la littérature de notre jeune pays, mais son tribut à l'histoire politique de l'Ukraine deviendra, à n'en pas douter, l'objet de nombreuses enquêtes, non seulement de la part de la commission parlementaire, mais aussi de ses homologues écrivains. Et qui sait, peut-être le roman qui en résultera sera-t-il plus impérissable que son modèle.
Его смело можно было бы назвать писателем-неудачником, если бы он остановился только на литературной или журналистской деятельности. Но он, при очевидном недостатке чисто литературного таланта, имел явный избыток таланта другого рода – таланта построения сюжетов и схем. Он не пошел по пути старших писателей-неудачников, перешедших в тихую политику и теперь мирно дремлющих в депутатских креслах. Но, проявляя свой действительный интерес к политике, он нашел довольно неожиданное применение своему вышеупомянутому таланту. Личная жизнь Виктора Золотарева также была больше похожа на литературное построение, чем на реальную жизнь. Единственным существом, к которому он питал искреннюю привязанность, был пингвин. Виктор Золотарев настолько дорожил своим пингвином, что когда животное серьезно заболело, организовал ему трансплантацию детского сердца. При этом он буквально купил сердце у родителей смертельно раненого в автокатастрофе мальчика, совершенно не думая о вопросах этики и морали. Виктор Золотарев не внес вклад в литературу нашей молодой страны, но его вклад в политическую историю Украины наверняка станет темой исследования не только депутатской комиссии, но и коллег-писателей. И кто знает, может, судьба такого романа окажется длиннее и удачливее судьбы самого Виктора.
Merci beaucoup. Quand on se demande à quoi sert la littérature pour vous, il y a un passage, alors c'est juste une phrase, hein, du Caméléon qui est intéressante parce que c'est un dialogue entre deux personnages, un vieil écrivain et le jeune héros. Et alors le vieil écrivain dit « Et quelle est la grande littérature selon vous ?» Juste des mots et des métaphores, c'est le moyen de transmission de l'énergie spirituelle comme un fil conducteur. Vous voulez vous charger d'une énergie sombre et profonde, lisez Dostoïevski. Vous cherchez à vous purifier et à passer un moment dans un état de grâce, prenez Tourguenieff. Est-ce que c'est ça pour vous, la littérature, une énergie spirituelle?
Oui, oui. En fait, l'auteur partage l'énergie spirituelle. Et si c'est un auteur noir, il partage la dépression. Un auteur pas noir, peut-être je peux partager optimisme, j'espère.
Ah oui?
Oui. À propos Ukraine, au minimum.
Et l'énergie, par exemple, vous êtes comme votre personnage, vous avez cherché dans L'Idiot de Dostoïevski une énergie aussi pour écrire?
Pas dans L'Idiot. mais en fait, c'est quand je commence à lire un livre, si je ne sens pas l'énergie positive, j'arrête. Et ce n'est pas seulement le sujet du livre, ce n'est pas seulement les premières deux, trois pages, mais je dois sentir l'auteur avec quelle énergie ce livre a été écrit.
Peut-être y a-t-il quelques questions dans la salle avant qu'on...
S'il vous plaît. Oui, il y a un micro.
Juste une première. Ça marche. Merci. Juste une première question. On a vu quand vous avez lu en russe, c'est ça ?
Oui.
Le passage, qu'il y a un rythme, il y a une musicalité, etc. Je voudrais savoir si vous êtes déjà arrivé de lire vos propres romans dans une autre langue que le russe ou l'ukrainien. Par exemple en anglais ou en français.
Je lis mes romans chaque an pendant 2-3 mois en Allemagne. C'est les lectures publiques, c'est une autre tradition là-bas et je trouve le même rythme, oui. Mais le rythme, pour moi, le rythme est très important parce que j'écris souvent en écoutant la musique. Et si je n'ai pas fini un chapitre aujourd'hui, j'essaierai demain d'écouter la même musique pour finir le chapitre, pour ne pas casser l'intonation, le sentiment à l'intérieur.
Alors j'avais une deuxième question rapide. On sent dans Le Pingouin, entre autres, où Les Pingouins n'ont jamais froid, qui est la suite du roman, oui, du Pingouin, on sent qu'il y a une grande recherche presque d'archiviste sur les détails, sur les choses comme ça. Et entre eux, quelque chose qui m'a frappé, qui est sur la base ukrainienne antarctique de Verdansky. Alors je voulais savoir, j'imagine que vous n'y êtes pas rendu, vous n'y avez pas été, mais il se trouve que moi j'y suis allé pour des raisons touristiques uniquement.
Ah, vous connaissez.
Oui. Et vous êtes connu là-bas, puisqu'il y a des gens qui ont lu Le Pingouin.
Oui. Non, je cherchais les gens qui travaillaient là. J'ai trouvé un homme à Dnipropetrovsk. J'étais allé de Kiev à Dnipropetrovsk pour lui inviter au restaurant pour dîner. Et il m'a raconté pendant 3 heures tous les détails.
Ah ben c'est, oui. On a l'impression que vous y avez été, donc c'est remarquable. Merci beaucoup.
Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vos romans sont traduits dans les autres langues slaves, en polonais ou en
oui,
croate ou... Et aussi, le nom et prénom de votre héros, Viktor Zlatariev, est-ce que c'est voulu? Parce que Viktor a un côté la victoire et l'autre côté Zlatariev, quelqu'un doré, quelqu'un en or. Y a-t-il une symbolique là-dedans?
Mes romans sont traduits en bulgarien, polonais, croate, serbe, ukrainien, bien sûr, oui. Le Pingouin va apparaître aussi en tchèque cette année. Et à propos de Viktor, oui, c'est vrai, parce que j'adorais le nom parce que Viktor, c'est quelqu'un qui va gagner, sans pensant, j'ai commencé le prochain roman après Le Pingouin avec le même héros, avec le même nom. Mais après, j'ai changé. Zlotariov, c'était mon ami d'enfance qui était allé dans la même école avec moi. Il m'a trouvé il y a 3 ans. Pour dire qu'il a lu le roman, il a pensé que c'était lui qui était le héros. Mais en fait, il s'appelle Mikhail Zlatariov, comme le pingouin Misha.
Bonsoir, j'aimerais vous poser une question, si ce n'est pas un secret que vous ne vouliez pas révéler. Votre façon de travailler le roman, de quelle façon vous procédez, par quelle façon vous procédez? Par exemple, est-ce que vous connaissez la fin d'avance? Est-ce que vous vous disciplinez à travailler 2 heures chaque jour? Enfin bref, toutes sortes de détails, si vous pouvez nous le dire. Merci beaucoup.
Mm-hmm. J'avais une routine avant mes enfants étaient nés. J'ai trois enfants maintenant, mais avant devenir le père, j'ai commencé toujours à travailler sur le texte à 5 heures du matin. Et j'écrivais la prose jusqu'à 11 heures. Après, j'ai pris le petit déjeuner au café et j'écrivais, comme je disais, la littérature ou les textes de la qualité deuxième. Les articles, les essais, les scénarios pour les films. Mais je n'ai jamais fait de plan de roman. Quand je pense sur le roman pendant une année normalement, et je commence à écrire en ayant l'histoire dans ma tête. Et quand je pense que 60-70% du texte est écrit, je fais le plan des chapitres déjà écrits. Et après ça, j'essaie de faire un plan pour la fin. Mais normalement, ce plan ne fonctionne pas. Il y a des choses qui j'utilise du plan, mais le fond était toujours quelque chose de différent. Et je laisse, en fait, je ne suis pas fâché avec mes personnages qui changent le fond du roman. Il y a une question?
En disant que les jeunes sont moins politisés, et du coup, vous avez utilisé l'expression sexe, rock and roll tout à l'heure pour les qualifier justement dans leur manière d'appréhender la littérature. Donc ma question, elle est assez simple. Est-ce que c'est pas uniquement lié au fait qu'il n'y a plus d'écrivains professionnels, d'après ce que vous venez de dire tout à l'heure, et qu'il y a un changement idéologique aussi, et peut-être que sociologiquement ça a changé radicalement, quoi. Voilà.
Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez simplifier la question ou répéter plus loin?
Non, ce que je voulais dire tout simplement, c'est est-ce que c'est l'effet du libéralisme finalement en Ukraine, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un libéralisme qui est en Ukraine, oui. Ce qui fait que les jeunes écrivains de maintenant, ils s'intéressent plus à la politique par ailleurs, et voilà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça je ne sais pas. Donc, ma question,
je crois que c'est une bonne chose en fait. Il y a la liberté de la littérature, il y a au moment la liberté des presses, et c'est, je crois, chaque écrivain écrit pour sa génération de lecteurs. Et si c'est jeune femme, il écrit pour jeune femme et pour jeune homme. Et comme la génération des étudiants d'aujourd'hui, après la révolution orange, n'est pas plus politisé, ne s'intéresse pas à choses politiques. C'est normal quand il change, quand il devient plus âgé, ils vont changer avec les écrivains vont changer avec leur lecture, je crois. Et il y aura toujours des gens qui écriront sur les choses politiques. Mais c'est sur une société libérale. Et comme en Ukraine indépendante, personne des politiciens s'intéressait à la littérature. La littérature restait libre, pas censurée. Et j'espère que ça va rester comme ça.
Une autre question? Non?
Dans un débat auquel vous avez participé vendredi dernier au Salon du Livre, Victor Erofeyev, qui était là aussi, et qui est une figure de la dissidence littéraire en ex-URSS, a déclaré que plus la situation politique était mauvaise dans un pays, plus la culture et la littérature étaient bonnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il parlait de la Russie.
C'est une situation complètement différente en Russie et ce règle au moment ne fonctionne pas en fait parce que en Ukraine les écrivains ukrainiens soviétiques étaient vraiment très liés au parti communiste et en 1991 cette littérature qui était d'abord payé par l'État et le livre était acheté par l'État, pas par les lecteurs, était disparu. Et on a vu le vacuum littéraire qui durait 8 ans, 9 ans, et pendant ces 8 ans, le marché de livres était occupé par les livres édités en Russie, mais c'était d'abord c'était les polars américains en russe, les science fiction et choses comme ça, et après par les polars science fiction et les romans pour les femmes russes. Et la nouvelle génération des écrivains ukrainiens, paraît seulement dans le 97-18, et ils ont compris tout de suite que la littérature ukrainienne nouvelle commence avec eux. Et comme ça, ils ont ambition de travailler beaucoup, d'être au public, de choquer les lecteurs. Et en Russie, la littérature russe post-soviétique était déjà écrite et éditée pendant le temps de Gorbatchev. C'est Makanin, Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Александр Кабаков, Виктор Ерофеев, Сорокин, tous les autres étaient déjà édités avant la chute de l'Union soviétique. Et il restait les auteurs classiques de la littérature post-soviétique. Et comme ça, maintenant, comme la culture et la littérature en Russie, c'est aussi c'est une chose très importante pour l'État. Aussi, M. Poutine boit du thé avec des écrivains pas connus parfois dans sa résidence et en disant qu'il faut écrire pour soutenir le patriotisme russe. Il faut écrire la littérature propre russe. Et comme ça, bien sûr, il y a des écrivains pas officiels, pas acceptés par l'État comme Vladimir Sorokin. Je ne sais pas par rapport à Viktor Ierofeev, parce qu'il arrive toujours d'occuper deux chaises.
Ouais.
il est un dissident officiel qui a une émission de télé chaque semaine. C'est bon, c'est un nouveau Evgeny Yevtushenko. On peut dire. Mais vraiment, la littérature russe post-soviétique, comme résultat, est beaucoup plus usagée, plus engagée dans les choses d'État, dans le patriotisme. Et aussi les auteurs plus jeunes, comme Zakhar Prilepin, par exemple, ils sont les représentants de nouvelles littératures macho. C'est la littérature très militante, politiquement très engagée. En fait, Zakhar Prilepin était devenu le bolchevique maintenant. Mm. Et il y a des jeunes gens comme ça. Je crois que c'est le problème de la Russie, qu'il n'y a pas beaucoup de la littérature sur sexe, drugs and rock and roll.
Et pas de légèreté.
Oui.
Il y a aussi, c'est vrai, je ne vous ai pas posé la question, la mort est omniprésente dans tous vos livres. Même dans Le laitier de nuit, on voit une femme qui vit très heureuse avec le cadavre de son mari, peut-être plus heureuse que quand il était vivant d'ailleurs. Pourquoi vous accordez autant d'importance à la mort et au cadavre, aux morts ?
Pourquoi ? Ouais, la mort, c'est aussi c'est quand les gens partagent une énergie pas positive. La mort prolonge la vie. Et comme ça, la mort fait la mort disparaître, la mort physique, la mort. Oui. Mais ici, dans ce roman, il y a beaucoup de métaphores d'énergie différentes. Il y a beaucoup de lait. Il n'y a pas beaucoup de sang.
Non.
Il y a beaucoup de vodka, mais toutes les choses sont les essences, les choses qui poussent la vie, qui créent la vie nouvelle.
Même les cadavres, même la mort.
Oui, on peut ressusciter aussi les cadavres.
vous les ressuscitez en tout cas. Peut-être encore une question ? Non ? Eh bien, dans ce cas-là, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.